Radio Okapi.
Présenté par Belinda Bossuma, voici le sommaire. COP28 aux Émirats Arabes Unis, une avancée majeure. Au premier jour hier à Dubaï de la conférence de l'ONU sur le climat, les délégués ont finalisé hier même la mise en œuvre d'un fonds qui aiderait à indemniser les pays vulnérables qui luttent pour faire face aux pertes et aux préjudices causés par le changement climatique. Et puis, célébration aujourd'hui 1er décembre de la journée mondiale de lutte contre le VIH-SIDA. À cette occasion, des jeunes Kinois ont donné de la voix, entre autres, sur leur perception par rapport à cette pandémie. Dans le même cadre, nous recevons André Kassoubi, coordonnateur du réseau national des assises communautaires des personnes vivant avec le VIH. Il nous parle de la situation du VIH-SIDA en RDC. Madame, Messieurs, bonjour. Les délégués réunis à Dubaï ont finalisé hier jeudi la mise en œuvre d'un fonds qui aiderait à indemniser les pays vulnérables qui luttent pour faire face aux pertes et aux préjudices causés par le changement climatique. Ceci est une avancée majeure au premier jour de la conférence des Nations Unies sur le climat de cette année. Les nouvelles d'aujourd'hui sur les pertes et les préjudices donnent un bon départ à cette conférence de l'ONU sur le climat. Tous les gouvernements et négociateurs doivent profiter de cet élan pour obtenir des résultats ambitieux à Dubaï, a déclaré le chef de ONU Climat, Simon Stiel, lors d'une conférence de presse au cours de laquelle l'annonce a été faite. Plus de détails avec vous, Alain Hirung-Mushinj.
Le secrétaire général de l'ONU, Antonio Guterres, a salué la décision de rendre opérationnel le nouveau fonds pour les pertes et préjudices. Selon lui, il s'agit d'un outil essentiel pour assurer la justice climatique. J'appelle les dirigeants à apporter des contributions généreuses et à faire démarrer le fonds et la conférence sur les climats sur des bases solides, a-t-il écrit dans un message sur le réseau social X. Ce fonds est une demande de longue date des pays en développement qui se trouvent en première ligne du changement climatique et sont confrontés au coût des ravages causés par des phénomènes météorologiques extrêmes, toujours plus nombreux tels que la sécheresse, les inondations et la montée des eaux. Après plusieurs années d'intenses négociations lors des réunions annuelles des Nations Unies sur le climat, les pays développés ont exprimé leur soutien à la nécessité de créer ce fonds l'année dernière lors de la COP27 à Sharm el-Sheikh en Égypte.
Notez que la 28e réunion annuelle, connue sous le nom de COP, du nom de la conférence des parties à la Convention cadre des Nations Unies sur les changements climatiques, a débuté le jeudi 30 novembre 2023 et doit se dérouler jusqu'au mardi 12 décembre prochain. Le monde célèbre le 1er décembre de chaque année, la journée internationale de lutte contre le VIH-SIDA. À cet effet, des jeunes Kinois ont donné de la voix sur leur perception par rapport à cette pandémie, ainsi que les mesures prises par les autorités pour la combattre. Blaise Shindani Kambala et Greta Lulendo ont recueilli les avis de certains Kinois. Suivez leur reportage.
Pour certains Kinois, cette maladie reste redoutable, car n'ayant pas encore trouvé un médicament susceptible de la guérir, pour eux, se protéger reste le seul moyen de l'éviter. D'autres cependant disent entendre parler de cette maladie, mais ne craignent pas la contamination et préfèrent ne pas se protéger pour ne pas atténuer le plaisir, comme explique ce jeune homme, la trentaine révolue, trouvée dans une rue de la commune de Bandalungwa.
Je n'ai pas peur du sida. Je n'utilise pas les préservatifs car je préfère aller sans protection pour ne pas atténuer les plaisirs. Je n'ai pas non plus peur d'attraper cette maladie car c'est Dieu qui nous protège. Pourquoi tu refuses toute protection? Ça détruit notre organe et ça atténue les plaisirs.
De son côté, le coordonnateur national du réseau national des assises communautaires des PVV assure que le PNLS continue sans désemparer son programme de sensibilisation contre cette maladie et des prises en charge des patients. André Soukadi.
Le pays s'est investi avec ses partenaires PEPFAR, Fonds mondial et les privés. En gros, je peux dire que la situation VIH au pays, il y a vraiment des avancées significatives.
Cette année, cette journée est placée sous le thème « Le leadership de communauté ».
Parlons à présent de la campagne électorale en cours en RDC. Constant Mutamba, candidat président de la République, séjourne à Kisangani dans la Tchopo depuis hier dans la nuit de l'aéroport international de Bangoka. Il a été conduit au centre-ville jusqu'à l'espace Boyomé, lieu réservé pour son adresse à la population venue l'écouter. Le candidat numéro 2 a fait des promesses au cas où il serait élu, notamment la fin de la guerre dans l'est du pays, l'amélioration du social de la population, tout en privilégiant les policiers et militaires ainsi que les enseignants. Plus de détails dans ce reportage de Jacques Moukonkolé.
Sitôt que je serai élu, je vais mettre un terme à la guerre qui se vit à l'est du pays, dit Constant Mutamba de la prise de parole. À ce sujet, il a promis de poursuivre en justice tous les complices de cette tragédie. Dans ce chapitre sécuritaire, il n'a pas épargné ceux qui auraient vendu les terres de Lubunga. Ils auront maille à partir avec la justice car, dit-il, ils ont fait couler inutilement le sang des enfants de la Tchopo. Sur le plan socio-économique, son programme d'action prévoit l'aménagement de toutes des routes nationales. En conséquence, il y aura abondance des produits et la baisse des prix sur le marché. Il promet ainsi l'amélioration des conditions salariales des agents et fonctionnaires de l'État, des militaires et policiers ainsi que des enseignants. Au regard de l'électricité quasi inexistante dans la Tchopo, il envisage la construction d'un nouveau barrage. Afin de lui permettre de réaliser ce programme ambitieux, Constant Mutamba sollicite les voix de la population, surtout celles des jeunes, pour son élection à la présidence de la République. Jacques Mkonkou Kisangani, Radio Okapi.
De son côté, Moïse Katumbi, candidat numéro 3 à la présidence de la République, était de passage hier jeudi à Kamina, dans la province du Olomami. Accueilli par une foule immense, il s'est adressé à ses sympathisants à la place dénommée Écran Géant. Moïse Katumbi a promis de donner de l'emploi aux jeunes une fois élu président de la République. Il a décrié le sous-développement de la province et a pris l'engagement de relever le défi une fois aux commandes du pays, notamment avec l'asphaltage des routes menant vers les autres territoires. Il a quitté le Olomami juste après son meeting. Et à moins de 20 jours de la fin de la campagne électorale, tout se passe bien à Kolwezi dans le Lualaba. Les candidats aux différents scrutins ou leurs représentants rivalisent d'ardeur pour séduire l'électorat en prévision de l'élection du 20 décembre. Pour un membre de la société civile locale, la campagne est encore timide. Faute de moyens, certains candidats attendent les derniers jours pour se lancer dans la bataille. Mais pour l'heure, ils se contentent des petites réunions pour essayer de convaincre les électeurs. Jean Gandou nous fait le point.
Jusqu'à ce jour, aucun candidat président de la République n'a foulé le sol de la ville de Kolwezi ou tout simplement la province du Lualaba. Cependant, sur le terrain, les candidats tant à la députation nationale que provinciale s'activent pour battre campagne pour s'assurer l'électorat. C'est ainsi que les différentes artères de la ville sont ornées des photos des candidats de diverses dimensions. Même des grandes places publiques, à l'instar du rond-point Mwangeji et celui de la Poste, sont aussi envahis par des photos. Certains bus de transport en commun sont couverts des photos des campagnes des candidats aux différents scrutins. Pendant ce temps, les débats contradictoires avec des candidats sont organisés tant à la radio qu'à la télévision locale. Et pour attirer les voix des électeurs, les candidats multiplient des stratégies. Il y en a qui font du porte-à-porte, d'autres organisent des petites rencontres au cours desquelles ils s'entretiennent avec leur base. D'autres encore mettent gratuitement à la disposition des étudiants des bus de transport en commun. Et les artistes et musiciens sont mis à contribution. Ils composent des chansons pour tel ou tel autre candidat qui sont diffusées sur certaines chaînes de télévision et stations de radio. D'autres les utilisent lors des caravanes motorisées. Lubumbashi, Jean Gandou, Radio Kapi.
Pendant ce temps, au sud Kivu, le prix du billet d'avion de Bukavu à Shabunda a pris de l'ascenseur pendant cette période de campagne électorale. Ce billet qui coûtait 250 $ revient aujourd'hui à 350 $. Constat fait par Agnès Sadiki, candidate députée provinciale de la circonscription de Shabunda. Elle affirme que les opérateurs économiques le font pour se retrouver en cette période où les candidats veulent mobiliser leur base pour les prochaines élections, ce qui ne facilite pas la tâche aux candidats, surtout aux femmes. Agnès Sadiki en parle au micro de Rachel Kiesé.
Mais je vous dis, pour arriver à Shabunda, c'est vraiment un casse-tête. Aujourd'hui, les opérateurs économiques, pour votre information, ils ont doublé les prix des billets d'avion pour arriver à Shabunda pour chaque candidat. Moi, j'ai vécu ça, je reviens de Nyambembe, de Lulingu. Donc, j'atterris à Lulingu, ils utilisent les mots « se retrouver » ou « j'y retrouver ». Kila mutu anapenda j'y retrouver, moi, y période. « Se retrouver » derrière la souffrance et les calvaires que traversent déjà les candidats et beaucoup plus les femmes candidates. Ça, c'est pour chaque candidat. Je ne sais pas comment ça se passe pour les passagers ordinaires. Tout simplement parce que vous avez commis le péché d'être candidat ou candidate. Vous atterrissez à Shabunda, c'est un vaste territoire. La moto, déjà, les motocyclistes vous disent, nous devons aussi nous retrouver. S'ils savent que vous êtes candidat, vous êtes candidate, ils doublent ou ils triplent les prix. Vous voyez?
Par ailleurs, la commission diocésaine Justice et Paix évalue le déroulement de la campagne électorale au Sud Kivu 12 jours après son lancement de manière globale. Le directeur de cette structure de l'Église catholique apprécie le fait que tout se déroule dans le respect des consignes dictées par la loi électorale. Cependant, l'abbé Justin Kunzi déplore la mise en évidence de ce qu'il considère comme un acte d'achat de conscience des électeurs. Les candidats balancent des cadeaux et des promesses au lieu de dérouler leur projet de société. L'abbé Justin Kunzi l'a dit au micro de Jean Kassami.
Jusque-là, il n'y a pas d'intolérance, mais encore jusque-là, les candidats ne se mobilisent pas encore vraiment sur un grand projet de société. Parce que les futurs honorables députés sont élus pour légiférer et contrôler. Mais malheureusement, sur ces deux missions principales, ils se taisent. Et ils préfèrent balancer des cadeaux, balancer des promesses. Mais nous, comme Église, nous, comme Commission diocésaine de justice et paix, nous avons élaboré un contrat social que nous sommes en train de proposer à la population pour être matière de discussion avec ceux qui viennent réclamer leur vote. Il faut que ceux qui battent campagne les fassent sur fond d'un projet social, d'un contrat social, au lieu des promesses ou des petits cadeaux à balancer, parce que ce n'est pas ça le travail des futurs honorables. On les attend pour légiférer et contrôler, mais certains préfèrent toujours manipuler la misère et la pauvreté des gens pour distribuer des petits trucs inutiles. Là, on risque de voter des candidats alimentaires, des candidats qui ne les méritent pas.
Du côté du territoire de Beni au Nord Kivu, le conseil de la jeunesse du groupement de Bambou Bakisiki dénonce les actes inciviques de certaines personnes qui arrachent les photos et affichent d'autres candidats à la députation provinciale et nationale. Selon Germain Kakoulé, président de ce conseil, toute personne prise sur les faits sera arrêtée et subira la rigueur de la loi. Il fustige également l'utilisation des enfants la nuit par certains candidats pour battre campagne dans la cité des Ringeti. Ce leader de la jeunesse promet de saisir la justice. Germain Kakoulé, joint par André Kitenge.
Nous dénonçons et condamnons cette façon de faire des individus malheureusement utilisés par certains candidats aux élections qui pointent à l'horizon, qui déchirent les photos affichées des autres candidats. Nous leur rappelons que c'est aussi une infraction qui peut amener à la condamnation. Peut-être qu'ils ne savent pas. Nous fustigeons aussi la façon de faire de certains candidats qui utilisent chaque soir les enfants dans l'entité pour leur campagne. Et nous, comme conseil de la jeunesse, agroupement Bambou Bakisiki, nous sommes déjà en pied d'œuvre pour voir comment démanteler ces réseaux et quiconque sera attrapé, il subira la rigueur de la loi. Parce que nous n'affairons pas aux autorités qui sont concernées.
Restons dans la région. À Beni, commune de Rwenzori, et dans le quartier Nzuma, au moins 35 rues ont été réouvertes à la circulation. La commune de Rwenzori est située au nord de la ville de Beni. Cette réouverture intervient au terme de la deuxième phase des travaux à haute intensité de main-d'œuvre. Timo, du Fonds social de la République, le chef de cette entité, visiblement satisfait, appelle la population à entretenir durablement ces rues. Marc Marofimbo, reportage.
Ces rues n'étaient plus fréquentées depuis 2014 quand les rebelles des EDF ont commencé à attaquer la ville de Beni. Ce quartier se vidait de ses habitants qui se sont dirigés pour les uns vers les centres-villes de Beni et pour les autres vers Mavivi et la cité d'Oicha. La fin de cette deuxième phase des travaux à haute intensité de main-d'œuvre avec la réouverture de ces 35 rues a permis de désenclaver les quartiers Nzuma, autrement dit la partie est de la route nationale numéro 4. Faut-il le signaler aussi, toutes ces rues facilitent à la population l'accès aux champs, d'où la satisfaction du chef de quartier qui appelle ses administrés à la responsabilité pour un entretien permanent de ces rues. Josué Kapisa.
Nous continuons à remercier le gouvernement congolais à travers son partenariat avec la Banque mondiale pour que les fonds sociaux reprennent encore ses activités. Nous avons une trentaine de routes que nous avons bénéficiées. Ce qui nous donne plus encore la joie, c'est que les routes soit encore en train d'être rechargé. Donc, si la population pouvait très bien entretenir les routes-là, nous aurions déjà de bonnes routes bien réalisées par les bénéficiaires des fonds sociaux pour la République.
Signalons qu'avec la première phase de ce même projet, 38 rues sont déjà praticables dans les quartiers Nzuma et Matembo, situés vers la partie nord de la ville de Beni. Beni, Marc Marofimbo, Radio Kapi.
Actualité internationale. La communauté économique et monétaire de l'Afrique centrale, CEMAC, obtient 9,2 milliards d'euros des promesses d'investissement dans 13 projets d'intégration régionale. C'était à Paris au cours d'une levée de fonds. Les 13 projets représentent le volet infrastructure du programme économique régional. Une table ronde pour le financement des projets intégrateurs prioritaires de la CEMAC s'est tenue le 28 novembre. La rencontre réunissait des personnalités et décideurs clés de la région avec les partenaires technico-financiers et les investisseurs. Elle fut couronnée de succès avec 104% des promesses de financement obtenues.
L'invité.
À l'occasion de la Journée mondiale du SIDA, nous recevons André Kasubi, coordonnateur du réseau national des assises communautaires des personnes vivant avec le VIH, RENOAC en sigle. Il nous parle de la situation du VIH-SIDA en RDC dans cet entretien avec Merveille Hassani.
André Soukadi, bonjour.
Bonjour madame.
Dites-nous, quelle est la situation du VIH-SIDA en RDC?
Nous sommes toujours dans les objectifs de l'ONU-SIDA, de l'OMS, d'atteindre 95 à l'horizon 2030. C'est-à-dire, il y a des avancées, déjà beaucoup des avancées dans la lutte contre le VIH-SIDA. Si nous comparons les années 70, les années 80, les années 90, et maintenant nous sommes aux années 2023, il y a beaucoup d'avancées. Donc, les pays s'est investi avec ses partenaires PEPFAR, Fonds mondial et les privés. Je peux dire que la situation VIH au pays d'une façon globale, il y a vraiment des avancées significatives qu'il faut vraiment reconnaître par rapport au travail clinique et aussi par rapport au travail des communautaires que nous sommes en train de faire.
En RDC, quels sont les partis les plus touchés par le VIH-SIDA?
Dans toute la RDC, le SIDA maintenant s'est généralisé. Donc partout il y a des cas, mais comme les cas de guerre sont plus à l'est, à mon avis, les gens qui sont en mouvement, les militaires, c'est plus à l'est. Par rapport aux populations à risque, les militaires, c'est plus dans les zones de conflit. Donc il y a encore du travail à faire. C'est pourquoi je ne sais pas dire que c'est à l'est, à l'ouest, au nord. Donc toutes les provinces sont concernées à mon avis.
Concernant la lutte contre le VIH-SIDA, qu'est fait les réseaux nationaux des assises communautaires de PVV, RENOAC en sigle?
Nous, comme réseau des personnes vivant avec le VIH-SIDA que je dirige, ce que nous faisons, c'est de l'auto-prise en charge. La prise en charge du VIH par les personnes vivant avec le VIH-SIDA. Donc nous sommes un réseau communautaire des petits groupes d'auto-support des personnes vivant avec le VIH-SIDA. Ce que nous faisons, c'est l'auto-prise en charge. C'est-à-dire quoi? Dans tous ces groupes-là de PVV qui sont stabilisés, qui n'ont plus de problèmes de santé, ils sont tous assistants psychosociaux. Ce sont des pères qui font l'accompagnement pour les PVV qui sont encore faibles. Et nous faisons, s'il faut dire en des termes clairs, la sensibilisation pour la prévention pour que les gens ne puissent pas infecter les autres. Nous faisons aussi l'accompagnement psychosocial. Nous faisons aussi la prise en charge médicale dans ce sens que dans la communauté maintenant, les PVV ont des structures communautaires que nous appelons PODI, poste de distribution communautaire des antirétroviraux. Et aussi, nous hébergeons les PVV, les personnes vivant avec le VIH-SIDA qui sont abandonnées, rejetées. Nous leur donnons à manger, nous leur accompagnons par des conseils et quand ils se rétablissent, nous les ramenons dans leur foyer, dans leur famille, ce que nous appelons la réintégration sociale.
Confier le leadership aux communautés, c'est le thème de cette année. Selon vous, qu'est-ce qui a motivé le choix de ces thèmes?
C'est le plaidoyer que nous, communautaires, nous, activistes de lutte contre le VIH-SIDA, avons fait depuis des années pour faire voir aux partenaires d'appui financier que pour mettre le VIH-SIDA, il faut que les communautés plus s'impliquent. Le SIDA, ce n'est plus un problème des maladies cliniques. Le SIDA vit dans la communauté, le SIDA est dans les personnes et les personnes vivent dans la communauté. Et c'est maintenant seulement que le monde entier a pris conscience pour comprendre que le leadership communautaire est très capital si on veut mettre fin au SIDA comme problème de santé à l'horizon 2030.
Et où est-ce que vous en êtes avec l'accès aux soins et aux ARV de malades?
Les ARV sont gratuits. Vraiment là, il y a un effort considérable fait par notre gouvernement avec l'appui de ses partenaires Fonds mondial et les Américains et les Européens sur toute l'étendue du pays.
Alors, quelles sont les difficultés auxquelles vous êtes confrontés?
Le problème que nous avons, c'est la prise en charge des infections opportunistes. Les personnes vivant avec le VIH-SIDA stabilisé ne meurent plus de SIDA, mais ils meurent plutôt des infections opportunistes. La première infection opportuniste, c'est la tuberculose. Donc, toute personne vivant avec le VIH-Sida est susceptible d'attraper la tuberculose. Mais de ce côté-là aussi, la tuberculose, le traitement est gratuit. Mais la difficulté, ce sont les examens des laboratoires qui sont encore payants à écouter. Ce sont les autres maladies qui entraînent les comorbidités, les maladies qui amènent la mort en dehors des sida.
André Soukadi, merci.
Le coordonnateur du réseau national des assises communautaires des personnes vivant avec le VIH, Renouac, répondait aux questions de Merveille Hassani. Ainsi prend fin ce journal, coordonné par Jacques-Yves Molima, à Outa. Supervision d'Alain Rongmouchinj, à la mise en onde Pierre Diassinois. Merci d'avoir été des nôtres.